Alors, l'enseignement d'aujourd'hui fait suite à celui de la dernière fois que vous pourrez, si vous n'étiez pas là, écouter sur le site de la paroisse de Puyo. Vous tapez « paroisse Puyo ». Vous retrouvez en principe ces enseignements. Alors, le but de ces enseignements, c'est de nous donner quelques indications précieuses pour vivre un chemin de délivrance. Et nous avons pu voir qu'il y a différentes étapes dans ce chemin de délivrance. Souvent, malheureusement, on pense que la délivrance est quelque chose d'un peu magique, du style « je vais essayer cette prière » ou « je vais voir ce prêtre, il est plus fort que celui-là », etc. Ça, c'est de la magie, ça n'est pas notre démarche, puisqu'il n'y a pas de délivrance sans conversion, donc au travail. Alors, les différentes étapes que nous avons pu commenter, c'est d'abord, évidemment, se tourner vers le Christ et le reconnaître comme notre maître, notre roi. Le Christ n'est pas une aide pour nous, il est notre roi, notre maître. Donc la vie chrétienne commence le jour où nous avons donné notre vie à Jésus. Vous avez donné votre vie à Jésus, j'espère. Si ce n'est pas encore fait, je vous souhaite de le faire. C'est un geste d'amour extraordinaire qui va changer votre vie. Oui, pardon, pendant l'enseignement, il y a des confessions. Donc le Père Bernard se tient disponible dans le fond. Je lis le signe. Peut-être le Père Thierry aussi qui vient d'arriver. Voilà. Alors, première étape, se convertir à la personne du Christ. Vous pouvez aller à la messe tous les dimanches, n'est-ce pas, faire votre prière et ne pas être converti. C'est-à-dire que vous n'avez pas donné votre vie à Jésus. Bon. Donc, à bientôt. La deuxième étape, elle va consister à pardonner. On a un exercice de pardon à faire. Nous sommes tous des grands sensibles. Donc, quand nous recevons des pics dans notre vie, eh bien, nous avons tendance à garder des amertumes, ne serait-ce qu'un peu. Vous n'êtes pas concerné, évidemment, mais ça peut vous concerner vous aussi. Donc, il y aura tout un travail à faire, si vous voulez, pour pardonner à ceux qui nous ont offensés et peut-être aussi nous pardonner à nous-mêmes de ne pas correspondre à l'idéal que nous aurions souhaité. La troisième étape que nous avons déjà commentée, ça va consister à renoncer, évidemment, à tout ce qui, dans notre vie, est une porte ouverte aux infestations malignes. Renoncer, par exemple, à l'occultisme, à aller voir des guérisseurs. Bon, c'est juste un exemple au hasard. Renoncer à certains péchés, tous les péchés, mais vous savez, il y a certaines portes plus grandes que d'autres éventuellement. Je pense à tout ce qui est de l'occultisme, tout ce qui est cette habitude de maudire intérieurement, de vivre dans la plainte et l'auto-malédiction. Enfin, donc, il y a des conversions à faire. C'est la troisième étape. Renoncer à toutes nos portes ouvertes et finalement, soyons honnêtes, c'est un combat de toute notre vie. Parce que nous allons repérer pour chacun d'entre nous le combat. D'accord ? Et là, il y a effectivement cet acte de renoncement à faire. Ok. Et en quatrième position, on trouve la prière pour la délivrance qu'on va demander à l'Église, mais pas que. On peut avoir une autorité dans le Seigneur. Il faut l'avoir pour soi-même. Au nom de Jésus, je casse, je brise tous ces liens. Je lis les esprits de maladie au pied de la croix. Voilà. Ce type de prière que nous allons faire dans la foi. Pourquoi ? Parce que nous sommes revêtus du Christ. Ce n'est pas juste une parole de piété sympathique, c'est que c'est une réalité. Pourquoi il y a aussi peu de miracles en France, me disait un missionnaire anglais qui était lui-même témoin de résurrection des morts. Et il revenait, quand je l'avais vu la dernière fois, il revenait de Colombie où il y avait une femme qui était ressuscitée. Puis sinon, il était allé en Chine, il y avait beaucoup de résurrection des morts. Il disait, pourquoi le Seigneur va ressusciter les morts en Chine? Vous pensez qu'il n'y a pas assez d'habitants en Chine? Bon, la réponse, c'est, eux, ils ont la foi. Nous, on ne l'a pas assez. Bon, alors, allons-y. Vous êtes convaincus, j'espère. Bon, et la cinquième étape, c'est peut-être la plus importante finalement, celle que nous développons en ce moment, c'est recevoir la bénédiction. Ce qui suppose d'accueillir notre vraie identité. Nous sommes enfants de Dieu. Oui, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas le vieil homme en nous. Voilà. Donc, entrer dans notre et accueillir notre véritable identité d'enfant de Dieu et appeler la bénédiction. Que nous soyons toujours dans la bénédiction. Seigneur, béni, béni, béni. Voilà. Alors, nous avons vu la dernière fois que cette vie de bénédiction doit être une vie de prière. S'il n'y a pas la prière au cœur de notre vie, eh bien, vous voyez ce que je veux dire, ça ne marchera pas. Parce que Dieu est notre force, et c'est le sens même de la vie chrétienne que de vivre dans le Saint-Esprit. Oui, vivre dans le Saint-Esprit. Galates 5, puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse agir. Que l'Esprit Saint nous fasse agir. Voilà, alors, la dernière fois, nous avons vu que cette vie de prière comportait cinq éléments indispensables. Premier élément, c'est l'écoute. Écoute Israël. L'écoute de la parole de Dieu. Je pense que chacun d'entre nous, on a amené notre Bible. Souvent, en milieu catholique, on n'a pas la Bible dans la poche. On a des amis protestants, ils ont toujours leur Bible sur eux. Bon, on a fait des progrès, nous, les catholiques. Mais peut encore mieux faire. Bon, on fait juste un petit test. Qu'est-ce qui a amené sa Bible aujourd'hui? Elle est dans le téléphone. Bon, vous voyez, il n'a pas beaucoup encore. Peut mieux faire, mais ne nous décourageons pas. Ce n'est pas suffisant d'avoir la Bible dans sa poche. Il s'agit de la lire tous les jours et de s'en nourrir. En tout cas, que la pensée du Christ remplace notre pensée. Plus exactement, qu'elle soit maîtresse. Parce que notre pensée devient fructueuse lorsqu'elle est branchée sur la pensée du Christ. On l'a entendu dimanche dernier, Jean 15, verset 5. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, c'est pour ça qu'on va commencer par écouter la parole de Dieu. La deuxième démarche, ça sera évidemment la prière quotidienne. La Sainte Vierge, dans les différentes apparitions, elle nous recommande le rosaire. C'est une arme infaillible contre le démon, mais attention, ce n'est pas de la magie. Prier avec le cœur. Il ne s'agit pas de faire gnon, 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 et après, on passe à autre chose. Non, la prière est une élévation de l'âme. Et on peut utiliser des prières, mais attention, si vous utilisez des prières, est-ce que vous priez ? Ben oui, parce qu'on peut juste réciter une prière et ça ne change rien, on ne prie pas. Ça y est, j'ai dit ma prière. Ça y est, je suis allé à la messe. Bon, et tout ça coule sur nous comme sur les plumes d'un canard. Donc, deuxième point, c'est la prière. La prière, elle va avec le jeûne. Pourquoi ? Parce que la prière, c'est une respiration, vous l'avez compris. On respire en Dieu. Vous connaissez cet apophthegme des pères du désert ? Alors, on est le long du Nil, et puis il y a ce disciple qui marche avec son père spirituel. Et il lui dit « Apprends-moi à prier ». Alors, le père spirituel, vous savez ce qu'il a fait ? Il lui met la tête sous l'eau. Et quand l'autre commence à se débattre, et à se débattre, et encore à se débattre, il lui retire la tête de l'eau. Et le disciple reprend une respiration, vous imaginez. Le père spirituel lui dit, tu sauras prier le jour où tu auras désiré Dieu autant que tu désires maintenant l'air. C'est bon, on y est. Donc, jeûner, ça nous fait du bien parce que ça nous rappelle qu'on a soif de Dieu. On a soif de Dieu. Et c'est une force aussi de jeûner. Alors, dans la tradition de l'Église, on jeûnait les mercredis et le vendredi. Bon, maintenant officiellement chez les catholiques c'est plutôt le vendredi, mais c'est pas mal de reprendre aussi le jeûne du mercredi. Bon, le jeûne c'est pas forcément ne rien manger, mais c'est quand même squeezer une partie du menu, en tout cas, pour se rappeler qu'on a soif de Dieu. Le jeûne, ça c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est la confession. Se confesser minimum une fois par mois. On a vu la dernière fois, on a parlé pas mal de la confession. Pourquoi ? Parce que la confession est un exorcisme aussi. Le curé d'Ars disait, si un jour j'étais triste, j'irais me confesser. Alors n'attendez pas d'avoir une longue liste pour vous confesser. Mon père, je n'ai pas de péché. En général, quand on me dit ça, je dis attendez un peu, je vais vous aider. Alors, notre péché, c'est un péché d'omission. Parce que le commandement de Dieu, c'est tu aimeras comme. Aimez-vous comme je vous aimais. C'est-à-dire divinement. Aimez-vous divinement. Vous y arrivez, vous ? Bon, alors tous les jours, on peut se confesser. Pardon, Seigneur, parce que j'ai mal aimé et je n'ai pas assez aimé. Vous savez, parfois on croit aimer, mais ce n'est pas de l'amour. C'est un espèce de truc fusionnel où on fait un espèce de chantage avec la personne, enfin c'est horrible quoi. Bon, ce n'est pas de l'amour. Et puis on n'aime jamais assez Dieu. Voilà, je vous ai donné des idées pour la confession. Le cinquième point qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'Eucharistie. On va voir aujourd'hui combien c'est important de pratiquer l'Eucharistie. Pas n'importe comment. Je vais vous proposer certains points qui pour vous nous aider à cette pratique de l'Eucharistie et de la communion eucharistique, de l'adoration eucharistique. Alors, on est bien d'accord, ici on est dans l'Église catholique. Donc, nous croyons que Jésus est présent dans le corps et le sang, par son corps et son sang, dans l'Eucharistie. Alors, il y a assez de miracles eucharistiques aussi, si vous doutez encore. Bon, je vais juste vous en citer un. Moi, j'y suis allé. Lanciano, c'est au sud de l'Italie. On y est passé. Et vous avez là-bas, dans un ostensoir, exposé ce qui reste de la transformation d'une hostie, et ça se passe vers le 8e, 9e siècle, un truc comme ça. Bon, pardon pour l'imprécision, Lanciano. Vous irez voir sur Internet, c'est très bien expliqué. Un prêtre doutait de la présence réelle au moment de la messe, et sous ses yeux, la grande hostie s'est transformée en morceaux de chair. Et le vin s'est transformé en sang. Et tout ça a été conservé miraculeusement jusqu'à maintenant. Et dans les années 60, il me semble, 70, on a fait une analyse du morceau de chair. Et c'est un morceau de cœur humain. Voilà. Et le sang est du sang humain, je crois que c'est AB+, hein, donneur universel. Bon. Enfin bref, il y a plein de miracles eucharistiques. Regardez Carlos Acutis et tout ça. En tout cas, nous n'y croyons pas suffisamment. Parce que vous voyez, il y a des saints qui passaient même des nuits à la porte de l'église sous la neige. La porte était fermée, mais il y avait le tabernacle. Ils passaient la nuit là en adoration. Vous voyez, on a encore des progrès à faire par rapport à ça. Et donc, nous savons que la communion eucharistique, en fait, nous transforme. C'est une nourriture. Et saint Augustin disait, je me trouvais bien loin de vous, je parle à Dieu, aux régions souterraines où j'entendais à peine votre voix descendue d'en haut. Je suis la nourriture des grandes âmes. Crois et mange. Car tu ne me changeras pas en toi comme l'aliment de ton corps. C'est toi qui seras changé en moi. Allez, je vous le répète. Je suis la nourriture des grandes âmes, crois et mange, car tu ne me changeras pas en toi comme l'aliment de ton corps. C'est toi qui seras changé en moi. C'est ça l'enjeu, que chaque communion eucharistique, chaque adoration eucharistique vienne transformer nos cœurs, nos âmes, même nos corps, pour les rendre participants de la nature divine, pour reprendre les termes de l'épître de saint Pierre, deuxième épître de saint Pierre, chapitre 1. Quelqu'un qui a bien communié, entre guillemets, ça se voit. On devrait nous dire, chaque fois que vous revenez de la messe, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es rayonnant? T'es amoureux? Et bien vous allez répondre, oui! Et vous aurez bien raison de le dire. Alors c'est sûr qu'on a besoin de se préparer à la messe, par le silence intérieur, par le jeûne, je vous rappelle que c'est maintenant une heure avant la communion. Donc on ne prend même pas un café avant la messe, d'accord ? Le café rompt le jeûne, que de l'eau. Ben, ça c'est des trucs un peu techniques, mais c'est important. Vous allez manger, prendre un bon repas chez des amis, ben, vous ne prenez, prenez pas un repas avant. Vous avez faim quand vous arrivez à la messe. Chez les orthodoxes, c'est encore le jeûne depuis la veille au soir, minuit. Ben oui, le jeûne, c'est le jeûne. On a soif de Dieu. On va pas aller à la messe comme ça, hein, bon, avec notre café, notre chewing-gum, je sais pas quoi. Vous voyez, il y a des trucs là à vraiment. Il faut que nous, les croyants, que nous, on se batte pour retrouver le sens du sacré. Parce que le père de Lubac dit que c'est l'Eucharistie qui fait l'Église. Concile Vatican II nous dit que l'Eucharistie, c'est la source et le sommet de la vie chrétienne. C'est pas rien. Se prépare en écoutant la parole de Dieu, par le jeûne, par la confession. Si on peut se confesser assez souvent, c'est bien. Sans rentrer dans la scrupulité, évidemment. Mais c'est du sérieux, quoi. À chaque messe, il devrait y avoir plein de miracles. Plein de miracles. Ben, j'espère qu'il y en a quand même, des miracles dans les cœurs. Mais on n'y croit pas assez. Préparons-nous à la messe. Voilà. Alors, là, on a une arme toute puissante dans le combat spirituel. Il ne faut pas la négliger. C'est une arme toute puissante. Alors, comment vivre nos communions et nos adorations eucharistiques qui prolongent la communion. Comment les vivre d'une façon fructueuse? Eh bien, il y a deux attitudes spirituelles de base et de fond qu'il nous faut, on va dire, développer. Première attitude spirituelle, c'est le don de crainte de Dieu. Devant Dieu, je me prosterne. Le mot adoration en grec, c'est le mot prokinésis. Le mot prokinésis signifie un geste de soumission, de reconnaissance de Dieu comme notre maître. Devant Dieu, on fait silence, on se met à genoux, au moins dans son cœur. Ces deux attitudes-là. Devant Dieu, eh bien, on laisse la place. Habacuc 2, 20. Mais le Seigneur réside dans son temple saint. Silence devant lui, terre entière. Sophonie, chapitre 1, verset 7. Silence devant le Seigneur Dieu, car le jour du Seigneur est proche. Apocalypse 8, verset 1 et suivant. Et lorsque l'agneau ouvrit le septième sceau, il se fit un silence dans le ciel, environ une demi-heure. Ce silence, c'est un lieu du cœur, un lieu de recueillement où l'on est ouvert à Dieu. Si je veux communiquer avec une personne, je vais faire silence. Alors, ce n'est pas le silence seulement, je dis rien, parce que ça, à la limite, pas très important, sauf si ma parole est dénaturée. Mais c'est un silence intérieur qui fait que je ne vais pas être en permanence avec mes idées, mes pensées qui tournent en boucle. Et on a remarqué que devant l'autre, parfois, j'écoute, mais je n'écoute pas. Parce que j'ai mes pensées à moi, moi et moi. Tellement rempli de son moi qu'il n'y a plus de silence. Ce silence est un lieu de notre cœur où nous sommes capables encore d'accueillir autre que nous-mêmes. C'est aussi le langage de Dieu. Je vous rappelle, Élie, le prophète Élie qui fuyait la reine Jézabel, on est dans le premier livre des rois, et il va marcher fort d'une nourriture mystérieuse que l'ange lui a donnée. Il va marcher 40 jours et 40 nuits. Et il va arriver à l'Horeb, et là, il y a une manifestation de Dieu. Et Dieu n'était pas ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Mais après le feu, il y a eu le murmure doux et léger. Alors, en fait, souvent c'est mal traduit. Dans vos Bibles, c'est souvent écrit le murmure d'une brise légère. Ben non. Alors, je vous le cite dans la langue originale, en hébreu, kol de mama daka. Une voix, kol, une voix de silence ténu. Et oui, ça c'est la voix de Dieu. Dieu parle dans le silence. Et si nous faisons silence, en tout cas si nous le décidons, Alors, nous rentrons dans cette première attitude du prokinésis, c'est-à-dire de la crainte de Dieu, non pas de la peur de Dieu, mais de la crainte de Dieu. « Je te crains et j'espère », dit le psalmiste. Alors, Dieu parle, oui, et si nous voulons l'entendre, comme il parle en silence, il nous faut nous taire. Et c'est pour ça que le premier commandement que nous trouvons dans Deutéronome, Deutéronome 6, c'est « Écoute, Israël, chemin à Israël ». Saint François d'Assise, on juge la maturité d'un homme à sa capacité d'accueil. Dans le silence, nous allons pouvoir descendre des périphéries de notre être à notre cœur profond. Théophane le reclus, vous devez descendre de votre tête dans votre cœur. Pour le moment, vos pensées sont dans votre tête et Dieu, lui, semble être en dehors de vous. Aussi, votre prière et tous vos exercices spirituels restent extérieurs. Tant que vous serez dans votre tête, vous ne pourrez pas maîtriser vos pensées qui continueront à tourbillonner comme la neige sous le vent d'hiver ou les moustiques pendant les chaleurs de l'été. Descendre de la tête à notre cœur. Bon, pour nous, il s'agit de le décider, vous voyez, de ne pas être devant Jésus en pensant à notre truc. Dieu aussi, je le transforme en prière. Je pensais à cette dame qui avait prié pendant 3 ans pour son fils dans la drogue à fond la caisse, et elle faisait je ne sais plus combien d'heures d'adoration tous les jours. Et puis, au bout de 3 ans, il ne s'était toujours rien passé. On lui a demandé, mais qu'est-ce que vous dites à Jésus? Et elle disait, je lui parle de mon fils. Évidemment, elle n'entendait rien du tout d'autre. C'était la pensée intérieure, c'est tout. Voilà. Donc, se décentrer de soi-même, et ça, c'est le silence de l'amour, évidemment. Parce que si vous pensez faire ça comme une technique, je vous souhaite bon courage, mais je vous dis d'emblée, ça ne marchera pas. Par contre, si par l'amour, vous demandez au Seigneur de vous apprendre ce silence de l'amour, Dieu est plus grand que notre cœur, va l'accueillir, alors ça va marcher. Saint Basile le Grand, comment parvenir au recueillement dans la prière? En étant convaincu, sans doute aucun, que Dieu est devant nos yeux. Quand quelqu'un voit son chef ou son supérieur devant lui et qu'il s'entretient avec lui, il ne va pas détourner son regard. Combien plus celui qui prie Dieu devrait-il ne pas détourner son attention de celui qui sonde le cœur et les reins, accomplissant ainsi ce qui est écrit, élevant vers le ciel des mains pieuses, sans colère ni distraction. Voilà. Alors, dans cette prokinésis, on fait silence et on va retirer ses sandales. Tout ce qu'on a amené, voilà, on les met dans un coin, on dit « Seigneur, je te confie tout ça » et on se rend disponible. Et on va se prosterner, et oui, se prosterner. Je vous cite Pierre-Julien Aymard, fondateur des Pères du Saint-Sacrement, 19e. « Il faut savoir se mettre à genoux devant Dieu afin d'être libre devant l'homme. Sinon, c'est devant l'homme que l'on finit par se mettre à genoux. » Alors, vous allez dire, non, je ne suis pas d'accord, parce que Christ est ressuscité, donc il fait rester plutôt debout comme Marie au pied de la croix. Voilà. Alors, ok, c'est ce que font les orientaux. Mais, attention, ils restent debout pendant tous leurs offices. Et un office, une messe, chez les orthodoxes, c'est pas trois quarts d'heure, hein, ni même pas une heure. C'est 2 heures, 3 heures, 4 heures, éventuellement toute la nuit si on est à la veillée pascale. Bon, et ok, on n'est pas à genoux tout le temps, mais on est debout tout le temps et on fait des inclinaisons, des métanies. On va toucher le sol pour montrer que... Voilà. Alors, dans la tradition qui est la nôtre, eh bien, nous, en fait, on va se mettre à genoux et même se mettre à plat ventre. La position à genoux, ça veut dire que si vous êtes à genoux, vous ne pouvez pas courir. Donc c'est une position de faiblesse devant Dieu qui est le fort. Vous reconnaissez que vous tenez votre force de Dieu et vous reconnaissez que Dieu est le fort. C'est pour ça que devant le Saint-Sacrement, c'est les deux genoux à terre. Ça, ce n'est pas des règles d'avant-concile, hein, ça marche toujours aujourd'hui. Et le démon a horreur de ça. Moi, j'ai fait l'expérience avec des gens infestés, de dire, bon, ben, on va adorer, waouh, se mettre à genoux, non, ça ne marche pas. Ok. Alors, dans la Bible, il y a plein, dans l'Évangile, il y a plein de moments où on se met à genoux. Je soutais, bon, les mages, évidemment, devant l'enfant Jésus. La femme atteinte d'hémorragie qui se jette par terre, qui va attraper la frange du manteau de Jésus, l'aveugle-né qui se prosterne devant Jésus quand il est guéri, les apôtres qui se prosternent devant Jésus quand il les a rejoints dans la barque, Marie-Madeleine qui se jette aux pieds de Jésus ressuscité. Et même quand Jésus est ressuscité, les apôtres se prosternent devant lui quand il apparaît. Ils adorent le Christ ressuscité. Et dans l'Apocalypse, pareil. Tout le monde se prosterne devant Dieu. Donc, nous n'avons plus aucune raison pour dire « Non, 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 moi, Christ est ressuscité, je ne me mets plus à genoux. » Je regrette profondément qu'on ait enlevé les prie-Dieu dans nos églises. Et j'étais un petit peu furax quand on a fait ça dans le Carmel de Lisieux. J'ai demandé une explication, on m'a dit que c'était pour le ménage. Bon, moi, je n'y crois pas trop. Enfin bref, sachons nous mettre à genoux devant Dieu. Ce n'est pas une question de tradit, de... voilà, etc. Non. C'est important. Ça, c'est le don de crainte. Je me mets à genoux devant Dieu. Et à Gethsémani, Jésus va se prosterner. Il se met à genoux, lui aussi. Voilà. Alors, donc, on remarque que dans le monde diabolique, on ne se met jamais à genoux. Et d'ailleurs, dans les représentations moyenâgeuses du démon, vous remarquerez que le démon ne peut pas se mettre à genoux. C'est-à-dire, il est comme ces oiseaux, les autruches, vous savez. Il a les genoux dans le mauvais sens. Il ne peut pas se mettre à genoux. Il n'a pas de genoux. Le monde diabolique ne peut pas s'agenouiller. Or, Philippiens 2, afin que tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers. Vous voyez l'enjeu ? Il s'agit de se mettre à genoux, parce que celui qui est l'orgueil même ne veut pas. Alors là, on sépare. Il n'y a pas de complicité, voyez. Et si je me mets à genoux devant Dieu, je suis un homme libre. Parce que c'est le don de crainte qui me mène à bien au don de piété filiale. Je vais me jeter dans ses bras. Ah oui. Jésus lui-même dira, le Père est plus grand que moi. Alors comment nous, avec nos histoires de traditionnalistes ou pas, on se fait des nœuds dans la tête, puis on dit non, non, on va plus se mettre à genoux. C'est insensé. Dieu est plus grand que nous. Donc, on va l'accueillir en se prosternant devant lui. C'est ce que font les prêtres au moment de leur ordination. Reconnaissons Jésus comme notre roi. Le reconnaître comme notre roi, c'est nous prosterner devant lui, c'est nous mettre concrètement à son école, oui, parce que Jésus dit « Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle. Et si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous nous ferons une demeure. » Donc, Jésus est notre roi. C'est sa loi qui devient notre loi. On n'est pas dans la démarche faussée, quelque peu magique, du style « je vais vers Dieu, parce que ça ne va pas me faire de mal, ça me fait plutôt du bien, et c'est moi, 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 et je me sers de Dieu. » Ça, non. Nous, on a fait un pacte d'alliance avec le Christ. C'est le sens de notre baptême. C'est un pacte d'alliance. C'est pourquoi, tant que nous n'avons pas vraiment donné notre vie au Christ, nous ne sommes pas vraiment croyants. Nous risquons d'être, bon, je me sers de Dieu quand j'en ai besoin. Tu parles. Première attitude, donc, c'est le don de crainte, la prokinésis. La deuxième attitude, et qui est aussi un remède pour notre combat spirituel, c'est l'ad oratio. Ad oratio, ça veut dire contact bouche à bouche. Qu'il me baise d'un baiser de sa bouche. Parce que Jésus est l'époux de nos âmes. Qu'on soit un homme ou une femme, Jésus est l'époux de nos âmes. Qu'il me baise les baisers de sa bouche. La cantique des cantiques met en scène l'époux et l'épouse. L'épouse, c'est l'Église. C'est chacun d'entre nous qui est concerné, pas seulement les dames, par le cantique des cantiques. Voilà. Et ça, c'est le don de piété filiale. Par le don de piété filiale, je vais accueillir l'amour de Dieu. Je vais laisser cet amour pénétrer dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Autant tout à l'heure, dans le prokinésis, on a la clé de l'humilité. Et si on a la clé de la douceur, de l'amour pur, qui est insupportable à toute présence diabolique. Moi, je vous propose de l'essayer. Quand vous avez des combats intérieurs, du style, vous êtes alcoolique, vous avez tout d'un coup... Vous avez envie d'alcool, c'est plus fort que vous. Eh bien, ouvrez-vous à la présence du Christ, à son amour. Laissez-vous aimer par le Christ. Parce que le piège du démon, c'est qu'il sait. On est tous des êtres d'amour, d'accord? Et tant qu'on n'a pas un amour optimum, on est en manque. Et comme on est en manque, il va nous poser des trucs qui sont déréglés, qui sont des chemins de mort, mais qui apportent une satisfaction immédiate. Ah, je me sens mieux. Sauf que quand je suis tombé, eh bien, le mieux, ça dure quelques secondes, voire quelques heures. Pas plus. Enfin, vous, tout ça, vous le savez. Mais moi, j'avais à cœur aujourd'hui que vous entendiez cette arme suprême dans le combat spirituel. Quand vous êtes en tentation, prenez un temps de silence et dites « Jésus, je m'ouvre à ton amour. Je me laisse visiter par ton amour. Croyez qu'il vous aime. » La petite Thérèse qui dit à sa cousine Marie que Jésus est malade. Il est malade d'amour. Il n'y a qu'un seul remède pour guérir cette maladie, c'est d'aimer. Alors n'hésite pas à l'aimer. N'hésite pas à l'accueillir. Te dis pas mais non, je ne suis pas assez propre pour lui. C'est pas possible, il ne peut pas m'aimer s'il est Dieu. Et tu es, nous sommes, sa création. Est-ce qu'un artiste va dire ça c'est un raté? Non, Dieu dira jamais ça. La petite Thérèse, le jour de sa première communion, je nous souhaite tous de vivre la communion eucharistique quand même. Ah, qu'il fut doux. Le premier baiser de Jésus à mon âme, ce fut un baiser d'amour. Je me sentais aimé. Et je disais aussi, je vous aime. Je me donne à vous pour toujours. Il n'y eut pas de demande, pas de lutte, de sacrifice, depuis longtemps. Jésus et la pauvre petite Thérèse étaient regardés et compris. Ce jour-là, ce n'était plus un regard, mais une fusion. Ils n'étaient plus deux. Thérèse avait disparu comme la goutte d'eau qui se perd au sein de l'océan. Jésus restait seul. Il était le maître, le roi. Thérèse ne lui avait-elle pas demandé de lui ôter sa liberté, car sa liberté lui faisait peur. Elle se sentait si faible, si fragile, que pour jamais elle voulait s'unir à la force divine. Alors, dans cette étape du don de piété, première chose, accueillir l'amour. Oui, je suis aimé. C'est comme quand vous êtes au soleil. Vous ne dites pas le soleil il brille pour les autres, pas pour moi. Vous allez vous exposer au soleil. Vous accueillez. Ça, c'est une première étape. Et si vous accueillez l'amour, alors vous vous livrez à l'amour. Se livrer à l'amour. Encore une fois, est-ce que nous avons donné notre vie à Jésus? Peut-être nous l'avons déjà fait, mais refaisons ce don de nous-mêmes. Jésus, je t'appartiens. Comme l'épouse appartient à l'époux. Jésus, je me livre à toi. Sainte Thérèse d'Avila, Dieu ne force pas notre volonté. Il prend ce que nous lui donnons. Mais il ne se donne pas complètement tant que nous ne nous sommes pas, nous aussi, donnés à lui complètement. Allez, je vous le répète. Dieu ne force pas notre volonté, il prend ce que nous lui donnons. Mais il ne se donne pas complètement tant que nous ne nous sommes pas, nous aussi, donnés à lui complètement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Sainte Thérèse Couder, fondatrice des Sœurs du Cénacle. On est au 19e. Et elle a écrit une lettre qu'elle a intitulée « Se livrer ». Vous la connaissez peut-être, cette lettre. Et en fait, elle se pose la question suivante. J'étais aussi dans un grand étonnement de ce que le monde entier n'était pas sanctifié par toutes les messes qui sont célébrées dans le monde. Je demandais comment il se faisait que le sacrifice de la croix, n'ayant été offert qu'une seule fois, ait été suffisant pour acheter toutes les âmes, et que renouvelé tant de fois, il ne suffit pas à les sanctifier toutes. Autrement dit, on devrait tous être des saints en sortant de la messe. Voici la réponse que j'ai cru entendre. Écoutez bien. Le sacrifice est sans doute suffisant par lui-même, et le sang de Jésus-Christ plus que suffisant pour la sanctification d'un million de mondes. Mais les âmes manquent de correspondance et de générosité. Or, le grand moyen d'entrer dans la voie de la perfection et de la sainteté, c'est de se livrer à notre bon Dieu. Se livrer, c'est plus que se dévouer, c'est plus que se donner, c'est même quelque chose de plus que s'abandonner à Dieu. Se livrer, enfin, c'est mourir à tout et à soi-même, ne plus s'occuper du moi que pour le tenir toujours tourné vers Dieu. Allez, je vous le répète. Se livrer, enfin, c'est plus que se dévouer, c'est plus que se donner, c'est même quelque chose de plus que s'abandonner à Dieu. Se livrer, c'est mourir à tout et à soi-même, ne plus s'occuper du moi que pour le tenir toujours tourné vers Dieu. Se donner. Vous voyez, c'est ça, notre communion eucharistique. L'Eucharistie, la Sainte Vierge, elle dit à Médégorier qu'il faudrait minimum 10 minutes d'action de grâce à chaque fois que nous recevons Jésus Eucharistie. 10 minutes, pas moins. Donc, moi, comme prêtre au service des paroisses, j'essaie d'allonger au maximum le temps de post-communion, mais on a pris des mauvaises habitudes, quoi. 10 minutes. Le temps de rentrer dans ce silence. Le temps de nous prosterner intérieurement ou extérieurement. De dire à Jésus, tu es mon roi. C'est ta loi que je veux pas une autre loi. Le temps aussi d'accueillir l'amour. Il est l'époux qui vient. Et moi, je suis épousé. J'accueille l'amour dans l'Eucharistie. Je me laisse habiter par autre que moi-même, par lui-même, dans sa présence réelle. Et je me livre à lui en retour. Je me donne à lui. En fait, dans notre cœur, il y a une grande soif. La petite Thérèse disait, j'ai besoin d'un cœur brûlant de tendresse, restant mon appui sans aucun retour, aimant tout en moi, même ma faiblesse, ne me quittant pas la nuit et le jour. Je n'ai pu trouver nulle créature qui m'aima toujours sans jamais mourir. Il me faut un Dieu prenant ma nature, devenant mon frère, et pouvant souffrir. Alors vous allez me dire, t'es sympa, mais moi je ressens rien. Ça n'a aucune importance. Parce qu'il s'agit ici de rentrer dans le don de crainte et le don de piété filiale par la foi. Et moi je peux vous garantir que si vous dites au moment de l'épreuve, Seigneur, prenez vraiment ce temps de silence. J'accueille ta présence, j'accueille ton amour qui vient combler tous mes besoins. J'accueille, j'accueille, j'accueille. Vous allez voir, vous n'allez rien sentir, mais Dieu agit. Parce qu'il attend le oui de votre liberté. Il ne va pas vous attraper avec du sucre. Ça, c'était pour le début. Je sens le Seigneur, c'est super, alléluia. Ben non, il y a un moment où on ne sent plus rien. Et à ce moment-là, eh bien, on peut toujours, comme disait Saint Jean de la Croix, faire des actes anagogiques. Je fais des actes de foi. Seigneur, je t'accueille dans la foi et je prends le temps de t'accueillir dans la foi. Et Seigneur, je me livre à toi. Et vous pouvez détailler. Alors, rassurons-nous. Il n'y a pas que nous qui avons soif. Jésus a soif. Toujours la petite Thérèse, un dimanche, en regardant une photographie de notre Seigneur en croix, je fus frappée par le sang qui tombait d'une de ses mains divines. J'éprouvais une grande peine en pensant que ce sang tombait à terre, sans que personne ne s'empresse de le recueillir. Et je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix pour recevoir la divine rosée qui en découlait. Comprenant qu'il me faudrait ensuite la répandre sur les âmes, le cri de Jésus sur la croix retentissait aussi continuellement dans mon cœur. J'ai soif. Ces paroles allumaient en moi une ardeur inconnue et très vive. Je voulais donner à boire à mon bien-aimé. Je me sentais moi-même dévoré de la soif des âmes. Ce n'étaient pas encore les âmes des prêtres qui m'attiraient, mais celles des grands pécheurs. Je brûlais du désir de les arracher aux flammes éternelles. Elle commentera plus tard, « Voilà donc tout ce que Jésus réclame de nous. Il n'a point besoin de nos œuvres, mais seulement de notre amour. Car ce même Dieu qui déclare n'avoir point besoin de nous dire s'il a faim, n'a pas craint de mendier un peu d'eau à la Samaritaine. Il avait soif, mais en disant « Donne-moi à boire », c'était l'amour de sa pauvre créature que le Créateur de l'univers réclamait. Il avait soif d'amour. Ah, je le sens plus que jamais, Jésus est altéré. Il ne rencontre que des ingrats et des indifférents parmi les disciples du monde, et parmi ses disciples à lui, il en trouve, hélas, peu de cœurs qui se livrent à lui sans réserve, qui comprennent toute la tendresse de son amour infini. Je ne sais pas si vous avez connu le fondateur des Pères de Mère Teresa, les pères missionnaires de la charité. Il s'appelle Joseph Langford. Il a écrit un très beau texte. Il fait parler Jésus qui dit « J'ai soif de toi ». Vous allez le retrouver sur Internet, c'est très très beau. « J'ai soif de toi ». Alors on va terminer. En fait, le but de notre vie, c'est pas d'être délivré du démon et de continuer notre truc tranquillement dans notre coin. Le but de notre vie, c'est eh bien, c'est d'être uni à Dieu qui est amour et de brûler du même amour que lui. Car il y a une connaturalité que Dieu veut établir en nous. Dieu est amour et nous, quand nous sommes épanouis, nous sommes aussi amour. Voilà le but de notre vie, devenir amour, comme Dieu est amour, être semblable à lui. Et qu'un jour on puisse dire comme Jésus a dit à Philippe, « Qui m'a vu, a vu le Père. » Et oui, chaque croyant va refléter le Père et le mystère de Dieu, amour. Alors pour conclure, je vous cite Saint Jean de la Croix. C'est une transformation de l'âme en son bien-aimé, où les deux parties se livrent mutuellement avec une entière possession de chacune. Par une union d'amour consommée, l'âme devient alors divine et faite Dieu par participation, autant qu'il se peut faire en cette vie. De même qu'en vertu du mariage sur terre, les deux époux ne font qu'une seule chair, comme nous le dit la Sainte Écriture, de même, lorsque ce mariage spirituel est consommé entre Dieu et l'âme, il y a deux natures dans un même esprit et amour de Dieu. Il dira aussi dans la montée du Carmel, l'âme est transformée, elle participe à ce qu'est Dieu. Elle paraît plutôt Dieu qu'âme, elle est Dieu par participation. Sans doute, elle conserve son être naturel, aussi distinct de Dieu qu'auparavant, malgré sa transformation, comme la vitre est distincte du rayon, tout en étant éclairée par lui. Je termine. Il nous manque, si nous voulons vraiment entrer dans toute cette démarche de silence, d'écoute, de crainte de Dieu, et aussi d'amour, il nous manque la Sainte Vierge. Essayez sans la Sainte Vierge, ce serait dommage. Pourquoi ? Parce que la Sainte Vierge est notre mère. Et si elle est notre mère, c'est qu'elle a du travail avec nous. Et vous savez que le démon la redoute plus que tout. Nous dit Saint-Louis Marie Grignon de Montfort, plus qu'une armée en bataille. Lorsque Marie réside dans un cœur, alors elle va, ce cœur va bénéficier, oui, bénéficier de la foi, de l'espérance et de la charité de quelqu'un d'autre qui s'appelle Marie. C'est quand même intéressant, non ? Parce que si vous dites c'est très très bien ce que tu as dit, mais j'ai pas assez la foi, eh bien vous avez la réponse. Allez-y avec la Sainte Vierge. Elle va compléter. Et c'est pour ça que si on se tourne vers Dieu, vous savez, la Sainte Vierge, elle est très, très respectueuse de notre intimité avec Dieu. Elle ne va pas se mêler de notre truc, quoi. Donc, notre relation à l'époux de nos âmes va rester complètement intime. La Sainte Vierge, elle n'y est pas, j'allais dire. C'est toi et lui, Jésus et toi. Mais la Sainte Vierge, elle va te préparer. Elle va préparer ton cœur. Elle va finalement t'enfanter pour que tu deviennes capable de Dieu. Est-ce que c'est clair ? Alors, tout ça, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort nous dit qu'il y a une préparation à la communion, on va supplier la Sainte Vierge de nous prêter son cœur, c'est-à-dire, ça c'est Louis-Marie, hein, c'est-à-dire vraiment que notre cœur soit dans les mêmes dispositions que ceux de la Sainte Vierge. Ça ne veut pas dire qu'on va faire une espèce de fusion bizarre, psychologique, relation fusionnelle avec la mère, bouf, bouf, bouf. Non, 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 c'est pas ça. Mais si vous êtes à côté de quelqu'un qui a la foi, eh bien, vous allez trouver que vous aussi, vous avez davantage la foi. Avec la Sainte Vierge, c'est pareil. Donc, vous demandez, nous demandons à la Sainte Vierge de nous préparer à la communion, de nous mettre dans les bonnes dispositions. C'est pour ça que c'est pas mal de prier la Sainte Vierge, de nous adresser à elle, pour nous préparer à la messe. Moi, j'aime assez le chapelet avant la messe, personnellement. Bon, voilà. Pendant la communion, pareil, on va lui demander de nous maintenir dans ses dispositions et après la communion, eh bien, on va lui demander eh bien, que cette présence de Dieu reste. Vous voyez ? Voilà. Allez, on va terminer par une belle prière. Prière du cardinal Newman. Ô cœur très saint et très aimant de Jésus, tu es là, caché dans la Sainte Eucharistie, et tu bats toujours pour nous. Maintenant, comme lorsque tu as dit « j'ai désiré d'un grand désir », je t'adore, avec tout l'amour et le respect dont je suis capable, avec toute la ferveur, toute l'affection, toute la soumission qui sont en mon pouvoir. Ô mon Dieu, quand tu condescends à souffrir que je te reçoive, que je te mange, que je te boive, quand tu acceptes de faire en moi ta demeure, fais que mon âme batte avec ton cœur. Purifie-le de tout ce qui est de ce monde, de tout ce qui est orgueilleux et sensuel, de tout ce qui est dur et cruel, de toute perversité, de tout désordre, de toute mort. Emplis-le de toi, afin que ni les événements de ce jour, ni les circonstances de ce temps n'aient le pouvoir de le corrompre, mais que dans ton amour et dans l'adoration, ils trouvent ton repos et ta paix. »